Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Il y a eu des champions, bien entendu, depuis que la saison est commencée, depuis que la Ligue est commencée. Forge FC a gagné 3 fois le championnat en 2019, en 2020 et en 2022. Donc, ils ont gagné 3 des 4 championnats de l'histoire de la Ligue, ce qui est quand même intéressant. C'est une équipe qui vient de Hamilton en Ontario. Et le dernier championnat qui a été gagné, le seul autre en fait, c'est en 2021 par Pacific Football Club, qui est un club bien entendu de l'ouest du Canada, dans en Colombie-Britannique, stade de 6000 personnes. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans cette ligue-là de la Canadian Premier League, il y a un champion du classement général de l'année, c'est-à-dire après un certain nombre de journées. Et il y a ensuite de ça des playoffs, des séries éliminatoires. Et donc, le champion 2022, bien c'était l'Atlético Ottawa. Et il a participé quand même à la finale, et cette finale-là qu'il a perdue contre Forge FC en finale. En 2021, Forge FC avait remporté le championnat de la saison régulière, mais ils avaient perdu, ils n'avaient pas gagné le titre de championnat des playoffs. C'est Pacific FC qui avait gagné. Et en 2019, eh bien, c'est Cavalry FC qui avait été le champion régulier de la saison régulière, mais qui n'avait pas gagné le titre de championnat. Ça, ce que ça nous indique, c'est que Forge FC, c'est l'équipe de loin qui a le meilleur historique dans cette ligue-là, puisqu'ils ont quand même 3 titres sur 4. Et le seul titre qu'ils n'ont pas eu, eh bien, c'est l'année où est-ce qu'ils ont terminé premier du classement général de la Canadian Premier League. C'est une équipe qui joue à Hamilton, là, du côté du Tim Hortons Field, un stade qui a quand même 23 000 personnes, 218 places. C'est quand même un stade intéressant, un stade que je vous recommande à visiter. Et les billets, on le sait très bien, là, pour la Canadian Premier League, ce ne sont pas non plus des billets très dispendieux. Et fait intéressant, côté Forge FC, hein, l'équipe d'Hamilton, on a un certain joueur qui s'appelle Aboubakar Sissoko, qui a joué plus de 27 matchs là-bas et qui a marqué 4 buts. Et bien, ce joueur-là a quand même joué avec les Carabins de 2015 à 2019, et c'était un joueur très dominant du côté du circuit RSEQ de sport universitaire de soccer. Un autre aspect que je voulais aborder dans cette ligue-là, qui est composée de 8 équipes, Pacific, Forge, York United, ça c'est en Ontario, Cavalry, Valor, HFX Wanderers, ça c'est du côté de Halifax, Atlético Ottawa, qui d'ailleurs appartient à l'Atlético Madrid, et Vancouver FC, qui est la 8e équipe, qui est une nouvelle équipe, là, qui en est à sa première saison. D'ailleurs, on a une entrevue là, d'après-match avec Afshin Godby, qui a entraîné en Chine, et on va vous présenter ça, là, c'est l'entraîneur de l'équipe Vancouver FC. Et par rapport aux affluences, c'est-à-dire aux spectateurs parmi les 8 équipes, évidemment, sauf pour Vancouver FC, là, j'ai pas l'information parce que j'ai des statistiques qui datent de l'année dernière, mais en moyenne, les foules qui vont voir ces équipes-là de la Canadian Premier League, on a Pacific qui est à 3178 spectateurs, Cavalry, 3492 spectateurs. Halifax Wanderers, ça c'est 5825 spectateurs en moyenne. C'est de loin la meilleure moyenne de foule par match dans la ligue. Et ensuite, la deuxième meilleure, eh bien, c'est l'Atlético Ottawa avec 4069 spectateurs en moyenne. La plus basse, l'FC Edmonton avec 1071. York United, c'est pas fameux non plus avec 1234. Valor FC, 3111 et Forge de Hamilton avec 3631 spectateurs en moyenne. Ailleurs, c'était d'ailleurs en 2019, là, quand ça a commencé, ils étaient à 6588. Donc, ça a quand même un peu baissé. Vous comprendrez aussi que le COVID peut avoir une part de responsabilité là-dedans, parce que je compare 2022 et 2019. Voilà. Donc, ils ont quand même perdu 2957 spectateurs Forge FC pendant ces années-là en moyenne. Mais là, ça commence à revenir, là, puisqu'on est vraiment très loin du COVID à l'heure actuelle. Donc, voilà. Maintenant, si on parle du match qui s'est déroulé samedi dernier, le 17 juin, bien, l'Atlético Ottawa l'a emporté 1-0 sur Vancouver FC. C'était le dernier de la Ligue, c'est-à-dire Vancouver FC, qui visitait l'avant-dernier, qui était l'Atlético Ottawa, qui est toujours avant-dernier de la Ligue, mais qui s'est rapproché quand même des places en série. Et c'est un but de Samuel Salter à la 9e minute, l'attaquant québécois qui a marqué un très beau but contre le gardien Callum Irving du Vancouver FC. Et donc, ça l'a permis d'aller chercher les 3 points pour Atlético Ottawa, qui est maintenant 7e sur 8 avec 11 points. Et la première place qualificative, c'est les 4e. Et à l'heure actuelle, les 4e ont 12 points. Donc, entre le 7e qui est Atlético Ottawa et le 4e qui est Cavalry, il n'y a seulement qu'un point de différence. Donc, c'est quand même intéressant. C'est une ligue qui est quand même encore ouverte. Et on espère que l'Atlético Ottawa pourra faire les séries puisqu'il faut se qualifier pour le faire entre le premier et le quatrième, entre la première et la quatrième position, pardon. Maintenant, concernant l'atmosphère du stade, il faut le rappeler, là, il joue au TD Place, l'Atlético Ottawa, donc ce club qui appartient à l'Atlético Madrid. Il joue dans un stade de 24 000 places. Vous comprendrez que même le CF Montréal ici, dans notre métropole qui s'appelle Montréal, qui est peut-être deux fois plus grosse qu'Ottawa minimum, il y a 24 000, ça ne se remplit pas, là, c'est 18 000 places du côté du CF Montréal. Et quand c'est Salcombe, si je ne me trompe pas, c'est environ 18 000 personnes qui sont là. Là, on joue dans un stade de 24 000 personnes qui ne se remplit pas pour le football américain avec le Red Black, c'est-à-dire les rouges et noirs de Ottawa dans la Ligue canadienne de football. Et vous comprendrez que pour la Canadian Premier League, l'Atlético Ottawa ne remplit pas le stade côté TD Place. Ce qui fait en sorte qu'il y a une partie du stade qui est complètement inutilisée. Donc, un côté du stade n'est pas du tout utilisé. Et l'autre côté du stade, c'est seulement le bas du stade qui est utilisé. Malgré ça, on est capable d'avoir une ambiance quand même acceptable. On a des ultras qui sont là, qui ont chanté tout le match. C'est sûr que c'est pas les ultras là, du Bayern Munich ou du Borussia Dortmund ou de Fenerbahçe ou Galatasaray, mais quand même, ça mettait un peu d'ambiance. Il y avait une petite ambiance familiale, si je peux vous dire ça comme ça, parce qu'ils n'ont pas leur propre stade, donc ils jouent dans un stade de football américain. Cet endroit-là, d'ailleurs, du côté d'Ottawa, est très populaire pour les sports parce qu'on a le complexe, le TD Place, et après on a le TD Place Arena. On a quatre équipes qui jouent là-bas. On a le football américain et on a le soccer de la Canadian Premier League qui joue sur le terrain. Et à l'intérieur, dans l'aréna, on a les Ottawa 67, si je ne me trompe pas. Et on a surtout les Ottawa Blackjacks, l'équipe de basketball de la CEBL, match auquel j'ai assisté d'ailleurs samedi soir. Et donc, avec une moyenne de 4 à 5 000 personnes pour l'Atlético Ottawa, ils sont une des meilleures équipes de toute la Ligue en termes de spectateurs qui vont au match. Donc ça, c'est bien. Et concernant le record de l'équipe, ben c'est 14 992 spectateurs. Ça se passait le 30 octobre contre Forge FC. C'était la finale. Et la pire affluence au match, c'était 2571 spectateurs le 20 juillet à Valor. Donc il y a quand même, contre Valor, pardon, et non pas à Valor. Donc c'est quand même intéressant de voir que les gens d'Ottawa suivent leur équipe. Il faut le rappeler, dans un monde idéal, c'est-à-dire que l'Atlético d'Ottawa aurait peut-être un peu plus de fans, peut-être dans un stade construit, mais ils n'en sont pas là pour l'heure actuelle, puisque c'est une nouvelle ligue. On essaye de voir qu'est-ce que ça peut donner. C'est la meilleure ligue canadienne, ça s'appelle la Canadian Premier League, puisque je vous rappelle que les trois équipes de la Major League Soccer, Montréal, Toronto et Vancouver ne jouent pas dans cette ligue-là. Et donc, ça donne place aux autres ligues. Ce sont des joueurs professionnels quand même qui sont payés. Ils ne sont pas payés des fortunes, mais ils ont quand même des entraîneurs connus et des joueurs connus qui jouent dans cette ligue-là. Notamment là, Carlos González Juárez, qui est l'entraîneur de l'Atlético Ottawa. C'est comme, bon, vous me direz que ce n'est pas non plus Pep Guardiola, mais c'est un entraîneur qui a quand même entraîné l'équipe nationale du Koweït et qui a entraîné aussi dans la Ligue du Koweït. Vous me direz, bon, ce n'est pas une des meilleures ligues au monde, certes, mais il a quand même déjà entraîné une équipe nationale. Et moi, un entraîneur qui a déjà entraîné une équipe nationale, je respecte ça, peu importe c'est quelle équipe nationale. Parlant de Carlos González, on va écouter qu'est-ce qu'il avait à dire par rapport au match et une entrevue d'après-match que j'ai pu réaliser avec lui dans la mêlée de presse à la fin du match au TD Place.
Carlos, congratulations on the win. Just your thoughts on this one. It certainly looked, especially early, like one of your more dominant performances of the season.
Yeah, thank you so much. It was a win that we needed, you know, start to add 3x3, very important win. And yeah, I agree with you that in certain moments we did quite a good first half, but in the second half we could do things better.
Donc, troisième victoire de la saison pour l'Atlético Ottawa. Ils avaient vraiment besoin de cette victoire-là, puisque comme je l'ai dit, maintenant ils sont septième, avant-dernier avec 11 points. Vous me direz, oui, ils sont avant-dernier, mais ils sont seulement à un seul point de la quatrième place, qui est une place qui qualifie l'équipe pour les séries éliminatoires à la fin de la saison régulière. Donc maintenant, on va y aller en musique avec Petit Béliveau et Tax Return, et après ça, on va revenir avec d'autres entrevues d'après-match du match Atlético Ottawa contre Vancouver FC qui a été gagné 1-0 par Atlético Ottawa avec un but de Samuel Salters, joueur québécois.
En odlusane sila jord Papa gouvernement ou monarch dans son corps Souvent je fais les affaires last minute Ma point mes income tax Ça, ça m'excite. Pis ça fait chaque semaine que je les ai filés. Check ma mailbox au moins 4 fois every day. Every day. Oh man, que c'est que c'était l'été, c'est qui fait rien que d'arriver. Fait rien que d'avoir mon income tax return. Tonight the party never. You call to mes frères. You're dick at swaddle party jusqu'au lendemain. Puis point à woody sur les snacks ou la bose. À cause mes poches sont pleines, and I'ma blow a few. Va blow et friggin' 200 pièces à Walmart.
Va blow et friggin' 200 pièces à Walmart.
Va blow et friggin' 40 pièces au Taco Bell.
Va blow
et friggin' 40 pièces au Taco Bell. Va remplir ma carte de friggin' Supreme Gas.
Va remplir ma carte de friggin' Supreme Gas.
Va blow et friggin' 300 pièces au liquor store.
Va blow et friggin' 300 pièces au liquor store.
Farek d'avoir mon income tax return. Tonight the party never.
Je vais blouer friggin' 200 pièces au Walmart.
Voilà, c'était Petit Béliveau avec Tax Return. Vous écoutez CFAC, le 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, Soccer Sport, tous les lundis soirs, 20h, 21h. Donc, prochain match de l'Atlético Ottawa, ça va être à domicile contre Valor FC. Ça va être le 9 juillet à 3h PM au TD Place Stadium à Ottawa. Et les billets sont disponibles, bien sûr, sur Ticketmaster.ca. Les billets coûtent en moyenne là, de 20 à 25 pour les moins chers et ça peut aller là, jusqu'à environ une cinquantaine de dollars. Les billets les plus chers là, sont environ une soixantaine de dollars. Donc, ça vaut la peine pour voir du soccer quand même de qualité et encourager surtout le soccer local et la meilleure ligue canadienne, je le répète, la Canadian Premier League. Donc, maintenant, pour conclure sur l'Atlético Ottawa, on va écouter le coach et James Cameron, nouveau joueur qui a eu son premier départ professionnel du côté du Vancouver FC, et le coach de Vancouver FC, j'ai nommé Afshin Rodby, qui a déjà entraîné, mesdames et messieurs, en Chine, qui a été assistant de la Corée du Sud, assistant à Los Angeles Galaxy, qui a entraîné au Japon. C'est un entraîneur là, qui a vraiment entraîné des équipes très intéressantes et qui a gagné des titres, d'ailleurs notamment la Ligue iranienne. Puis il a aussi eu une promotion avec une équipe de deuxième division chinoise.
Thank you very much for joining us at the Atletico Ottawa against Vancouver FC post-match press conference. We're going to begin with Vancouver FC head coach Afshin Rodby, and we'll begin with questions in the room, and we'll begin with AJ from TSN 1200. AJ, after you.
Hi, welcome to Ottawa. First trip to TD Place, I'm sure. What did you think of today's match?
Well, I think, first of all, I have to say you have one of the most beautiful cities I've seen in a long time, and it's the first time I've been here, and I was so impressed with the architecture, history, and just such a beautiful downtown. The stadium is also has a very, I think, a massive feeling, and the atmosphere in the stadium was I think, very colorful, especially the fans of Ottawa seem to be so supportive of their team, making it much easier for them.
Thank you. Yes.
Wilson Bensta, CSM. Thank you for your time, Coach. You're currently last in the standings. What will be your objective for the rest of the season? Are you think about playoffs too, or what's the game plan for the rest of the...
I think when you start a project like we have in such a short time, you're trying to put a team together with the parameters and the budgets that you have and the limitations that you face. You try to take it one day at a time and one game at a time. I think from the ownership, myself, and everyone in the front office, that everybody's a winner. We want to win. We want to be in the playoffs. We want to be champion. But at the same time, we have to be pragmatic and we have to.
Coach said that you had to stop the bus 1 kilometer away from the stadium and walk with your suitcases. Is it something that bothers you, or are you just going with the flow? And as a young player, you don't really care about that stuff.
It doesn't affect me too much. Still focused on the game. The walk wasn't a huge deal to me, but just certain small things that disrupt the flow of how we prepare for the game, it can make a difference. So we saw it as well. We were slow from the start. We're not going to blame the bus, but that's definitely not something that helped us.
Thank you.
Thank you, Wissam. Next, we'll head to Charlie O'Connor-Clark from Campia.ca. Charlie, after.
Voilà, donc l'entraîneur côté Vancouver FC, je le répète, j'ai nommé Afshin Rodby, a dit que leur objectif, c'est sûr qu'ils voulaient être champions, qu'ils voulaient gagner des titres, etc., mais que l'objectif était aussi d'être réaliste. Alors, ils en sont à leur première année dans la Canada Premier League, donc ils veulent développer les joueurs, développer une bonne ambiance de groupe, et surtout aussi, il a dit que par rapport à la ville d'Ottawa, que c'était une des plus belles villes qu'il avait visitées depuis très longtemps. Il a mentionné l'architecture, il a aussi mentionné que les fans d'Ottawa étaient quand même très intéressants, être bruyants, puis qu'ils avaient des bons fans. Et quant au joueur James Cameron, eh bien ça c'est l'entraîneur qui en avait parlé. Il avait dit que l'autobus avait dû arrêter 1 kilomètre plus loin, puis les joueurs avaient dû marcher avec leurs bagages. Et donc ça, bon, comme on dit, c'est des growing pains, là, c'est-à-dire que c'est une nouvelle ligue, une ligue qui est jeune, mais dans les ligues professionnelles à travers le monde, c'est très rare qu'on voit des choses comme ça. Et c'est arrivé du côté d'Ottawa. Les joueurs de Vancouver FC ont dû descendre avec leurs bagages environ 1 kilomètre loin du stade, et ils ont dû marcher avec. Puis bon, L'entraîneur avait dit en effet que le début de match avait été inexistant du côté du Vancouver FC. Est-ce que ça a été la cause? Probablement pas, mais ça l'a pas vraiment aidé. Et c'est ce que James Cameron avait dit. Donc voilà, c'est ce qui complète ce petit reportage sur ma visite du côté du TD Place Arena à l'Atlético Ottawa qui a battu le Vancouver FC 1-0 avec un but du Québécois Samuel Salters. Et maintenant, on va y aller avec l'entrevue que j'ai réalisée avec Jean-Pierre Chancy. Donc, on est avec Jean-Pierre Chancy. Monsieur Chancy, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va très bien, vous-même.
Ça va très bien, merci. Donc, la raison pour laquelle on fait une entrevue aujourd'hui, c'est parce que vous avez reçu un prix, le prix Austin Matthews de la contribution exemplaire. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord en quel honneur et pour quel travail, quel poste vous avez reçu cet honneur?
Ben, j'aimerais bien être précis, mais ça me semble être... Enfin, c'est un honneur qui récompense la contribution générale comme administrateur dans le monde du sport universitaire. Donc, selon ce qui est écrit, ça reconnaît la contribution à la progression et à l'évolution du sport dans le milieu universitaire.
Parfait. Donc, c'est ça que je pensais d'ailleurs. Puis, on va y revenir tout à l'heure là, au coordonnateur de sport d'excellence parce que ça m'intéresse. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que cette entrevue, c'est pour que nos auditeurs vous connaissent et pour que vous puissiez vous exprimer par rapport à l'honneur que vous avez reçu. Est-ce que vous voudriez commencer par faire une mini-biographie de qui vous êtes, vous venez d'où, qu'est-ce que vous aimez, quel a été votre parcours qui vous a amené à avoir ce poste important avec les Carabins?
Eh bien, j'ai commencé avec les Carabins dans les fins des années 80. Donc, c'était au début d'une première relance du programme de sport d'excellence à titre d'entraîneur de l'équipe de volleyball féminin. J'ai maintenu ce statut-là après l'arrêt du programme en 94 et je suis revenu donc en 95 dans les mêmes fonctions. Et j'étais entraîneur au Collège Bois de Boulogne. J'ai entraîné aussi l'équipe du Québec. Dans mon cheminement d'entraîneur, j'ai été aussi entraîneur avec l'équipe nationale. Donc, j'ai assumé le poste d'entraîneur-chef des Carabins en volleyball féminin jusqu'à l'année 2005. Et déjà à ce moment-là, j'avais commencé à être un petit peu plus impliqué dans la direction du programme. Et en 2005, bon, je me suis retiré de mon poste d'entraîneur pour être complètement au niveau de la direction, donc ce qui m'a amené au poste de coordonnateur du sport d'excellence à un moment où on vivait une belle croissance avec l'arrivée du football, du soccer et beaucoup d'autres sports.
Excellent. Donc, c'est un très bon résumé. Merci beaucoup. Donc, le sport volleyball, j'imagine, vous l'avez pratiqué aussi en tant qu'athlète quand vous étiez plus jeune?
Étonnamment, en fait, la réponse est oui, mais étonnamment, beaucoup moins que l'on pense que je l'ai fait. J'ai joué au volleyball un peu à l'école secondaire et un petit peu après ça en club après, mais en termes d'expérience d'athlète, j'en ai fait pas mal plus en basketball qu'en volleyball. Par contre, les circonstances ont fait que j'ai eu une opportunité de très jeune de m'impliquer comme entraîneur en volleyball, puis je me suis développé et j'ai développé ma spécialité en ce sens.
OK, parfait. Et petite question, vous avez dit que le programme de volleyball en 1994 avait été arrêté, puis il est repris en 1995, c'est ça?
En fait, ce n'est pas le programme de volleyball, c'est l'ensemble du programme Carabin qui, à l'époque, en 1994, comprenait seulement les deux équipes de volleyball et un programme de natation. C'est ce programme-là qui a été mis en suspens pendant un an et qui a repris en 1995 avec les mêmes disciplines sportives. Et à partir de là, la croissance a commencé sous la direction de Manon Simon.
OK, donc les raisons pour lesquelles il a été arrêté, est-ce que c'était simplement pour avoir une meilleure croissance par la suite ou on ne sait pas?
Écoute, là, ça serait un cours d'histoire du sport à l'Université de Montréal, mais on était à une époque où la légitimité de supporter des équipes sportives à l'Université de Montréal n'était pas acquise. Et il y avait certains désaccords, notamment entre certains éléments de la haute direction ou encore entre la haute direction et les associations étudiantes, ce qui faisait que le sport étudiant était un petit peu objet de guerre de pouvoir et qui a mené à cet arrêt-là. Puis après ça, il y a eu la reprise. Et maintenant, de nos jours, disons que j'ai l'impression que la légitimité n'est plus remise en question.
Non, en effet, avec toutes les équipes universitaires qu'on a. Et probablement, ça m'amène à la prochaine question, parce que j'imagine que vous avez peut-être quelque chose à voir avec ça. Vous avez parlé croissance. Le rôle, l'objectif du coordonnateur du sport d'excellence que vous êtes, que vous avez fait très longtemps, c'est quoi le rôle exactement? Comment ça se passe? Comment se passent les journées de travail? C'est quoi les objectifs principaux?
De façon très sommaire, il s'agit de supporter les équipes sportives, donc les entraîneurs, dans leur travail en coordonnant justement l'ensemble des services aux équipes, que ce soit au niveau médical, encadrement académique, en nutrition, en embauche du personnel et aussi un rôle de représentant ou de représentation auprès des organismes de régie, que ce soit au niveau québécois, le RSEQ, ou au niveau canadien, U-Sport, qui à l'époque était le CIS ou SIC, ouais. Tel qu'on l'appelait à cette époque-là. Donc, c'est ça, de représentation dans un sens au niveau réglementation, etc., service aux équipes, et aussi, j'ai eu beaucoup, dans mes fonctions, j'ai eu beaucoup à travailler en matière de vérification, de conformité, donc vérification du droit de participer en lien avec les règlements, etc.
OK, très intéressant. Ça fait longtemps que je voulais parler avec quelqu'un qui était dans l'environnement là, des carabins, dans la haute direction, si on peut dire comme ça, là, qui prennent des décisions importantes. Est-ce que, si je comprends bien, vous étiez en charge aussi d'embaucher, c'est-à-dire entraîneur, physio, nutritionniste, est-ce que ça faisait partie de votre rôle aussi?
Ça faisait partie du rôle de l'équipe de direction dont j'étais.
OK.
Donc, j'ai travaillé à ces sujets-là aussi, à ces aspects-là, mais pas seul.
Pas seul, OK. Puis le côté financier, en fait, je ne sais pas si vous pouvez en parler, si c'est votre rôle. Une équipe, le programme universitaire, parce que ça coûte énormément d'argent. Le football en ramène quand même, parce qu'avec tous les billets vendus, mais il y a des sports qui en ramènent un peu moins, mais il y a beaucoup de sports. La majorité de l'argent pour supporter les équipes sportives, ça vient de où?
Alors, les équipes sportives nos équipes sont supportées en partie donc par les trois institutions que nous représentons sur la scène provinciale et nationale, en partie par des revenus du CEPSUM et en partie par les activités des équipes elles-mêmes et ou de leur entourage. On parle là à ce moment-là de donateurs, d'alumni, d'anciens.
Oui.
Qui contribue. Et donc, le milieu sportif en général peut contribuer à supporter ces équipes-là au niveau financier.
OK, très intéressant. Merci beaucoup. Et affaires académiques et étudiantes, si vous vous occupiez également de ça, c'était quoi votre rôle par rapport à affaires académiques et étudiantes? C'était écrit dans le...
Dans le libellé?
Oui.
Alors... C'est essentiellement de voir à la réalisation du projet étudiant de chacun de nos participants, des étudiants athlètes. Donc, que ça soit au niveau de la réussite académique, de l'orientation, du support périphérique dans les enjeux socio-économiques, etc. Donc, essentiellement, ça revient à dire, si on veut le dire de façon très succincte, c'est de veiller à ce que l'étudiant athlète définisse son projet académique et son projet de réussite pendant qu'il est dans notre institution et voir à l'accompagner pour que la réussite soit réelle.
OK, excellent, c'est très bien expliqué. Puis maintenant, on va sortir un peu de ce prix, on va parler un peu de vous, mais il reste une petite question. Ce prix que vous avez reçu pour vous, qui s'appelle le prix Austin Matthews, qui n'est pas d'ailleurs en référence au joueur, vous le savez, là, en joueur américain des Maple Leafs.
En fait, c'est exactement, c'est pas la même chose et c'est pas écrit exactement de la même façon.
Oui, c'est ça. Mais pour les gens qui ne le savent pas, ils vont dire Austin Matthews, c'est un joueur américain qui joue avec les Maple Leafs, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? C'est le nom de deux personnes qui ont été mis les uns après les autres.
Exact.
Ce prix, est-ce que, bon, vous avez l'air très humble, je ne vous connais pas, mais c'est l'impression que vous me donnez. Ce prix, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes très fier?
Assurément, oui, je le prends avec humilité, je suis conscient que c'est un prix qui revient bon, à moi en termes de personne, mais aussi à l'équipe dans laquelle j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Je suis très reconnaissant de ceux qui ont soumis ma candidature. Il représente notamment aussi beaucoup parce que je ne peux m'empêcher de souligner que je suis la première personne de race noire à recevoir ce prix-là. Pour moi, c'est très significatif et ça se concrétise notamment avec toutes les félicitations que j'ai reçues, plusieurs jeunes, et c'est pourquoi d'ailleurs je fais ce travail-là, qui ont témoigné leur reconnaissance et en même temps donc leur bonheur de me voir reconnaître de cette façon-là. Je pense que j'ai un rôle à jouer dans ma communauté aussi. Et j'ai l'impression que ce prix-là vient consolider ce rôle.
Excellent, très bonne réponse. J'apprécie beaucoup votre réponse. Je trouve que c'est vrai parce que vous avez le prix pour vous. Mais en même temps, c'est en même temps, peut-être une mission que vous êtes donnée ou de faire rayonner aussi les membres de votre communauté ou de votre ethnie pour pouvoir... montrer l'espoir ou montrer que tout est possible parce que je ne savais pas que vous étiez le premier. Ça m'a surpris.
Je dois te dire que moi aussi.
Oui. Oui, c'est ça. En tout cas, très félicitations encore une fois pour ce prix. Vous le méritez. Maintenant, concernant votre carrière, vous avez entraîné le volleyball très longtemps. Quels ont été vos plus beaux moments dans votre carrière de coach de volleyball?
Ah, écoute, j'en ai eu quand même quelques-uns parce que ma carrière d'entraîneur déborde beaucoup le travail avec les Carabins. J'ai près de 40 ans de carrière d'entraîneur donc, qui a débuté en fin des années 70. Donc, ça fait quand même un bon moment. Oui. Donc, j'ai eu l'occasion de remporter plusieurs titres provinciaux et nationaux. Donc, je dirais les plus beaux moments. Un des premiers titres nationaux que j'ai remporté, qui était le championnat canadien junior en 1988, demeure pour moi comme un moment charnière dans ma carrière d'entraîneur. J'ai eu le plaisir de diriger l'équipe nationale junior. Et en 2004, je crois, 2003 ou 2004, dans un tournoi international, le Canada a battu Cuba, qui à cette époque-là était une des premières fois qu'on battait Cuba en compétition internationale. Ça avait été un grand match, une belle réalisation. Avec les Carabins, on a eu surtout dans les premières années, alors que l'équipe était très peu supportée de toutes sortes de façons, les conditions d'entraînement très difficiles, etc., de remporter le titre du Québec universitaire dès la deuxième année. Pour moi, c'est un accomplissement dont j'ai été très fier. Donc, je dirais ces moments-là, mais au-delà des performances, j'ai aussi entraîné beaucoup de jeunes, plus jeunes, donc catégorie d'âge 14, 15, 16 ans. Et de voir ces jeunes-là jusqu'à aujourd'hui, alors qu'ils sont adultes, être encore très reconnaissants de ce qu'ils ont vécu sous mon leadership, pour moi, ça, c'est très flatteur. Ça apporte beaucoup. Et je ne saurais empêcher de dire que mon fils qui a et qui a eu et a encore une grande carrière d'athlète en volleyball. J'ai eu le plaisir de le diriger à quelques reprises dans des championnats d'importance et on a remporté des titres ensemble. Ça, c'était des très beaux moments familiaux.
Oui, donc félicitations. En fait, beaucoup, ce que vous dites, c'est qu'il y a beaucoup, au-delà des titres, c'est qu'il y a de la reconnaissance des gens que vous avez, qui sont reconnaissants aujourd'hui, en fait, bref, de votre travail, de votre passion pour le volleyball.
Absolument, absolument. La durée des relations, au-delà de la relation entraîneur-athlète qui a ce jour, j'ai même eu l'occasion de diriger à certaines reprises des enfants d'athlètes que j'avais déjà dirigés. Donc, ces relations-là sont durables et apportent beaucoup.
C'est ça, le côté humain est très important. Très, très intéressant, Monsieur Chancy. Puis maintenant, on arrive vers la fin de l'entrevue. Il me reste deux questions. C'est une question très générale, en fait. Vous pouvez la modifier si vous voulez. Qu'est-ce que vous trouvez qui va bien et qui va moins bien dans le sport universitaire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez qui vont très bien? Puis est-ce qu'il y a des choses que vous voyez d'un autre côté qui vous dites « ça, on a un problème avec ça, il faudrait peut-être améliorer ça? »
Mais quelqu'un qui est là depuis un bon moment, comme moi, ce que j'ai envie de dire qui va bien, c'est de voir la progression de la valeur du sport étudiant et universitaire en général, donc de la place du sport dans le cheminement académique des étudiants, une place légitime, une place reconnue, la possibilité donc pour les jeunes de plus en plus de ne pas avoir à faire des compromis entre leur ambition sportive et le cheminement académique et éventuellement professionnel qu'ils ont choisi. Pour moi, ça, c'est quelque chose de très, très significatif et qui va de mieux en mieux. Bien, c'est sûr que dans le domaine où j'ai œuvré, on a envie de dire que c'est jamais parfait. Il y a toujours de mieux à faire. Maintenant, qui va moins bien, ça reste aussi dans la même lignée. Cette reconnaissance-là, bien qu'elle a beaucoup cheminé, je trouve que dans certaines sphères de notre société, il y a encore beaucoup de travail à faire pour reconnaître justement cet aspect de l'excellence. Une institution académique qui se dit promoteur et contribuante à l'excellence et au développement des leaders de demain, pour moi, doit reconnaître que parmi ces leaders de demain, les étudiants athlètes ont une grande place, qui méritent une grande place. Donc, de les supporter dans l'excellence et de s'assurer qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions possibles, parce que ce n'est pas encore le cas. On a encore des défis au niveau des services aux athlètes, mais aussi des défis, si je parle spécifiquement chez nous à l'Université de Montréal, des défis d'infrastructure qui sont désuètes. Pratiquement, le CEPSUM, on est très fiers du CEPSUM, c'est un monument, un héritage énorme, mais il ne répond plus à la demande et aux besoins. Pas seulement des étudiants athlètes, mais je dis des pratiquants sportifs en général. On a besoin de moderniser, peut-être voir et d'agrandir ces installations-là, puisque je dis pour le CEPSUM, est vrai à plusieurs égards. Il y a des endroits où on a vu des grandes progressions, comme à l'Université Laval, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire au niveau des infrastructures sportives, en général au Québec et peut-être même au Canada.
OK, très intéressant. Très, très, très... Point de vue par rapport au CEPSUM, on sait qu'il y a les rénovations aussi de l'extérieur. Ils utilisent le CEPSUM à l'extérieur pour y entreposer du matériel. C'est pour ça que l'équipe de football a joué au centre Claude Robillard.
Non, c'est en fait, je corrige, on renouvelait le terrain lui-même.
Le terrain, c'est ça.
Il fallait refaire la surface. Ça, c'était inévitable. Mais c'est ce que le CEPSUM peut faire depuis très longtemps, c'est-à-dire de rénover ce qui est. Mais moi, ce que je disais, c'est que ce qui est n'est plus suffisant. Mm-hmm. Le terrain, il est très bien, Mais si on prend les équipes qui évoluent à l'extérieur, les équipes de soccer, football, rugby, et les autres étudiants ou autres participants qui pratiquent ces disciplines-là aussi, les terrains extérieurs, c'est très bien, mais on est au Canada. Il y a quand même un 7 à 8 mois dans l'année où on ne peut pas utiliser ces terrains-là ou très peu. Et plusieurs universités américaines, canadiennes disposent aussi d'infrastructures similaires, mais à l'intérieur,
Oui.
sous des dômes ou autres formes, et on a besoin de ça. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plusieurs autres. Notre piscine aussi était fermée pendant un bon bout de temps. Elle va être rénovée, c'est excellent. Mais ça reste que c'est la même piscine, on n'a pas une deuxième.
Oui.
Le gymnase où évoluent les équipes de volleyball depuis les années 70, le volleyball a beaucoup évolué comme sport. Cette surface-là ou cet espace-là ne convient plus du tout au niveau de jeu actuellement. Le ballon touche au plafond beaucoup trop souvent et il n'y a pas d'installation pour recevoir les spectateurs de façon adéquate. Donc, le Septum est bien, c'est une belle infrastructure, mais c'est une infrastructure que même si on la rénove, elle ne suffit plus.
Donc, vous penseriez, par exemple, une des solutions, ce serait agrandir le septum où est-ce qu'il est ou construire quelque chose d'autre un peu plus loin?
Bon, écoute, moi, je suis à la retraite, donc il y a des choses où je m'éloigne d'eux. Si
Oui.
je prends mais de l'extérieur, en regardant rapidement, et j'ai beaucoup voyagé au Canada dans plusieurs universités, la grande majorité ont un deuxième complexe sportif, les grandes universités. Donc, la logique, selon ce que je vois, c'est d'avoir qu'il y ait une autre installation à un autre endroit. De toute façon, le campus de l'Université de Montréal s'est élargi. Il y a d'autres terrains qui sont exploités et ça m'apparaîtrait logique que ces terrains-là bénéficient aussi d'une infrastructure sportive. D'autant plus que de toute façon, on est en flanc de montagne avec le Septum et à ce que je sache, les capacités d'agrandir sur le même site sont sont très limitées, voire même inexistantes.
Oui, c'est ça que je pensais d'ailleurs. Est-ce que vous avez une université que vous avez vue, dont vous avez eu les installations, puis vous dites cette université-là, elle fait très bien les choses en termes d'installation sportive, une université qui donne l'exemple vraiment, que ce soit au Québec ou au Canada?
Bien, proche de nous, l'Université Laval, c'est de façon très évidente avec le nouveau PEPS qu'ils ont construit, mais ils ont beaucoup de terrain, ils l'ont exploité. Mais plus loin, avant l'Université Laval, on a l'Université de Manitoba, l'Université d'Edmonton, d'Alberta, qui est à Edmonton, UBC, ce sont tous des exemples qui me viennent à l'esprit rapidement et qui ont fait des agrandissements très significatifs.
Parfait. Donc, merci encore, Monsieur Chancy, pour votre réponse. Dernière petite question. Vous avez dit vous êtes à la retraite. Est-ce que vous avez des objectifs pour le futur, quels qu'ils soient reliés au sport ou non?
C'est gentil. Écoute, j'ai officiellement pris ma retraite en 2019, mais depuis, j'ai gardé quand même un lien d'emploi avec les Carabins. Donc, j'œuvre encore à temps partiel sur des dossiers spécifiques, comme celui de mettre en place le cercle des alumni et autres. Et puis, je m'implique encore beaucoup dans le monde du volleyball. Je suis
OK.
président d'un club de volleyball avec lequel j'ai gardé les liens depuis 40 ans. D'ailleurs, le club, voyons, célèbre son 40e anniversaire cette année. Donc, je suis encore très impliqué à ce niveau-là. Et puis, plus je m'en voudrais de ne pas le dire, j'essaie de jouer au golf assez régulièrement, même si je joue très mal.
OK, excellent. Donc, vous avez pris goût au golf. J'ai jamais joué, donc je ne sais pas, mais beaucoup de gens qui sont à la retraite jouent. C'est le fun.
Mais c'est le fun, mais je crois que l'erreur fondamentale que j'ai faite et celle que tu sembles être en train de faire, c'est que j'ai dénigré le golf jusqu'à 50 ans. Et
OK.
commencer le golf à 50 ans, c'est pas la meilleure recette pour avoir du succès.
C'est pas, en effet. Donc, je vais essayer de commencer avant mes 50 ans. Il m'en reste quand même plusieurs années avant, là, donc on verra si j'écoute vos conseils, Monsieur Chancy. Donc, écoutez, merci beaucoup pour votre temps. Est-ce que vous avez des personnes que vous aimeriez saluer en onde ou un commentaire que vous voudriez faire par rapport au Carabin ou au U-Sport ou quoi que ce soit?
Ben, là, en me posant cette question, la seule, enfin, de cette façon-là, les seules, enfin, les personnes qui me viennent à l'esprit, c'est tous les étudiants athlètes que j'ai côtoyés depuis une trentaine d'années, que je salue et à qui je dis que ça va toujours me faire plaisir de les revoir, surtout dans le cadre du Cercle des Alumni qu'on lance officiellement cette année. Et puis, et de façon très évidente aussi, ma compagne de travail depuis toujours, Manon Simard, avec qui j'ai beaucoup travaillé à mettre tout cela en place.
Alors, c'est Monsieur Jean-Pierre Chancy, coordonnateur du sport d'excellence, maintenant à la retraite pour les Carabins de l'Université de Montréal. Donc, merci beaucoup de votre temps et encore une fois, félicitations pour votre prix, vous le méritez.
C'est bien gentil. Merci à toi.
Merci, à la prochaine.
Au plaisir.
Au revoir. Voilà, donc c'est ce qui complète cette émission de Soccer Sport tous les lundis soirs 20h-21h sur les ondes de CFAQ 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Vous avez des commentaires, des suggestions, eh bien il y a la page Instagram Sport CISM ou bien par courriel sport avec un S CISM2023@commercialhotmail.com Sport CISM2023@commercialhotmail.com. Donc on remercie M. Chancy de nous avoir accordé du temps. On devrait avoir des entrevues là, dans les prochaines semaines également avec du monde de l'Atlético d'Ottawa et de d'autres franchises, bien entendu. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir été là. C'était Wissam Bensta au micro pour CFAQ à Soccer Sport. Bonne semaine et à la prochaine.
Two step, 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 two step